explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainé, tu connais ?
Vous avez croyé que je peux regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui, depuis sa Bretagne, sans trop savoir pourquoi, rêvait de terres lointaines et exotiques. Sans davantage savoir pourquoi, à la même période, il se mit à se passionner pour les civilisations disparues et les époques révolues. Une fois devenu grand, assez naturellement, il devint paléontologue et se lança dans des expéditions de grande ampleur. Inlassablement avec ses collègues et ses équipes, il fouilla le sol, du Tchad à l'Éthiopie, en passant par l'Indonésie, la Chine, la Mauritanie ou encore la Sibérie. Des tonnes et des tonnes de sédiments retournés et à la clé des découvertes majeures, dont le squelette fossile de Lucie, une grande tante australopithèque âgée de 3,2 millions d'années. Aujourd'hui, le petit garçon est devenu un scientifique de renommée mondiale. Il est certainement le paléontologue le plus connu et le plus aimé des Français. Près de 80 ans après le début de cette histoire, la passion d'Yves Coppens est toujours là, intacte, et il prend toujours autant de plaisir à la partager. Alors le temps d'un bivouac, nous allons en profiter.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Yves Coppens.
Bonjour.
Paléontologue, professeur émérite au Collège de France, vous venez de publier vos mémoires aux éditions Odile Jacob sous le titre « Origine de l'homme, origine d'un homme ». Vous allez nous raconter ces expéditions que vous avez menées en Afrique où vous avez découvert de nombreux fossiles humains. Nous verrons aussi que vous êtes allé chasser le mammouth congelé en Sibérie. Cette émission est réalisée par Marion Lelay avec à la technique Mathias Alléon.
Quoi sert ce papier ? Ce papier sert à isoler la dent ou l'os que l'on veut dégager du plâtre que l'on va mettre par-dessus. Ça permet en laboratoire, lorsque la pièce arrive, d'enlever le plâtre très facilement et de ne pas enlever des morceaux d'os ou de dent en même temps que le plâtre. Et en général, ces pièces sont préparées par un encollage d'abord, c'est-à-dire que l'on met un produit qui consolide la pièce, si vous voulez, qui consolide l'os. Et puis, une fois que l'os est consolidé, on le plâtre avec cet intermédiaire de papier pour le transporter beaucoup plus facilement. Ça donne un ensemble qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide.
On en arrive à l'extraction de la dent.
Oui, et c'est toujours le moment délicat. Parce que lorsque cette partie-là est maintenant bien prise en masse, bien tenue, l'autre côté, on y arrive très très doucement, et l'autre côté n'est quand même pas consolidé encore.
Oui.
Par conséquent, le retournement, c'est la grosse opération, et c'est là qu'il y a des surprises qui peuvent être aussi bien agréables que désagréables. En général, on fait tout pour qu'elles soient agréables.
Nous étions en 1970, Yves Coppens, dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Vous étiez en train d'opérer avec une extrême délicatesse. Vous en prenez un soin fou de ces fossiles que vous découvrez dans le sol.
C'est extrêmement important, vous comprenez. D'abord, les fossiles sont rares. Ensuite, quand on les trouve, ils sont porteurs de quantités d'informations. Ils sont porteurs de mémoire, d'une mémoire extraordinaire. Donc, tous les éléments de ce fossile, le moindre morceau de ce fossile, peut être intéressant, peut être important. Et c'est pour ça que, là, de manière un peu grossière, au ciseau à froid, d'après ce que j'entends, mais de manière plus précise encore, sous le microscope, on sculpte littéralement le caillou pour sortir l'os. Et quand on enlève un petit morceau d'os, eh bien, c'est qu'on a mal travaillé et qu'on a perdu une partie de la mémoire du monde.
Vous êtes plus dans votre élément sur le terrain ou dans votre labo, dans votre bureau à Paris ?
J'aime bien les deux, mais j'adore le terrain. Et dès ma petite enfance, d'abord j'ai couru le terrain. Et ensuite, quand je suis devenu professionnel, j'ai souhaité en effet avoir une grande partie de mon existence sur le terrain, c'est-à-dire d'aller moi-même chercher les fossiles que je devais étudier.
Et ça, c'est une nouveauté en quelque sorte. Hein. Avant vous, vous avez un peu dépoussiéré la paléontologie, c'est-à-dire avec d'autres évidemment, mais avant vous, il y avait les petites mains qui fouillaient sur le terrain et puis il y avait les savants qui observaient les fossiles sans sortir de leur laboratoire, on peut le dire comme ça ?
Oui, on peut le dire comme ça, mais sans condescendance, parce que ces gens-là, c'était une manière de faire, c'était une manière d'être, et ces gens-là étaient de grands anatomistes. Mais c'est vrai qu'en général, le professeur était quelqu'un qui était assez distant d'abord, qui faisait ses conférences ex cathedra, hein, ouais. Et puis que l'on n'interrompait pas, et puis ensuite qui recevait, en effet, dans son laboratoire, les fossiles recueillis.
Avant vous, c'était, on va, alors pas plus amateur, mais peut-être plus confidentiel, les fouilles. Vous avez participé, vous, à des expéditions, 40, 50 personnes sur le terrain, des chantiers de fouilles gigantesques.
Oui, c'est-à-dire de l'artisanat, c'est devenu un petit peu semi-industriel, quoi, c'est vrai. Ça dépend des moyens que l'on a, et puis ça dépend de la conception que l'on a des fouilles, en effet. Mais vous savez, lorsque l'on va chercher le fossile en place, dans le terrain, le fait qu'il soit en place, ça veut tout dire. Ouais. C'est-à-dire que l'endroit où il se trouve a une importance par rapport au sédiment dans lequel il est, a une importance par rapport aux autres éléments, aux autres fossiles qui se trouvent dans les environs. Enfin, tout a une importance, et c'est pour ça que quand on fouille, on laisse tout en place. Comme si on dégageait le sol ancien. Et le sol ancien, en dehors de l'apport de chaque objet en particulier, comme auparavant, le sol ancien révèle aussi des informations dans les rapports qu'ont les ossements, les fossiles ou les pierres taillées, je ne sais quoi, entre eux.
Alors, on reviendra évidemment dans cette émission à ce travail effectivement très minutieux que vous menez sur le terrain en Afrique et pas seulement en Afrique. Vous avez la chance d'être arrivé au bon moment, on le comprend, mais vous aviez aussi mis toutes les chances de votre côté pour prendre pleinement votre part à cette aventure. Dès votre plus jeune âge, à en croire vos mémoires en tout cas, vous étiez fait pour ce métier et cette vie. Très très tôt, vous dites, j'ai contracté l'exotite, cette envie, ce goût d'ailleurs, cette envie d'aller loin.
Oui, c'est une plaisanterie évidemment de présenter ça sous la forme d'une maladie. Oui. Mais c'est vrai que j'ai été attiré par le passé, comme vous l'avez dit, et attiré aussi par l'ailleurs, l'avant et l'ailleurs.
L'avant et l'ailleurs.
Et j'ai réussi, sans plan de carrière, hein, mais je suis parvenu à associer les deux, puisque je suis allé ailleurs chercher l'avant, et les deux ont fonctionné de façon formidable. Ouais. J'aime beaucoup circuler, j'aime beaucoup bouger, et s'il y avait des places sur le prochain voyage pour Mars, mon ami Rocard, Francis Rocard, m'a expliqué que la première tournée autour de Mars n'atterrirait pas, c'était juste pour prendre des photos. Alors je dis bon, on y va.
D'accord, vous étiez partant, vous preniez le billet. Donc très jeune, hein, des rencontres, vous sympathisez avec le conservateur du musée de préhistoire local, à vos anniversaires on vous offre des pièces d'époque lointaine, et on sait comment vous faire plaisir, c'est avec ces pièces de musée. À 10 ans, on vous laisse accéder à la bibliothèque d'une société savante, et à 13 ans, alors là c'est la première grande claque archéologique, le premier choc, vous parlez d'une vraie révélation, c'est sur une plage du Morbihan. Qu'est-ce qui se passe?
Ben vous savez, quand on est attiré par le passé, on se plonge dans les livres, ça va de soi, et on se plonge dans les musées, ça va de soi aussi. Et puis tout d'un coup, un beau jour, le terrain. J'ai été conduit sur le terrain face à une petite falaise qui était bourrée de fragments de poterie. Toute petite poterie, toute mince, toute rouge, criblant littéralement la falaise. Quelle impression, je peux toujours pas la décrire, quoi. J'en ai des frissons, vous voyez.
Ouais. Aujourd'hui encore. C'est quelqu'un qui connaissait votre passion, hein, qui vous emmène sur ce terrain de fouille. Donc, ouais. Vous voyez des archéologues à l'œuvre. Dès le lendemain, vous revenez avec un mètre à couture, un ruban, hein, piqué à votre grand-mère, avec votre cahier d'écolier. Et ça y est! Vous y voyez, vous êtes archéologue, vous voulez mettre la main à la pâte.
Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a montré où ça se trouvait et comment ça se présentait, bien sûr que je n'ai pas raté le coche, quoi. Et j'étais ce jour-là, le jour où j'ai rencontré ce site avec un monsieur, et le lendemain, j'étais évidemment tout seul parce que je voulais un contact personnel avec ces gens d'avant. Ouais. Et puis qu'on puisse avoir une conversation sans gêne, ce que je n'ai cessé d'avoir depuis.
Oui, c'est ça. Tout commence à 13 ans, finalement. Alors, il faut dire que dans la région où vous étiez, hein, du côté de Vannes, il y a Carnac, pas loin non plus, avec ces dolmens qui ont de quoi inspirer.
Selon Gustave Flaubert, Carnac a fait écrire plus de sottises qu'il n'a de pierres. Et cela ne manque pas, 3000 menhirs sur 4 kilomètres, bien alignés comme les perles que l'on peut entendre.
Je me demande s'il n'y a pas une grande bataille à coups de cailloux aussi.
Cette accumulation de vestiges mégalithiques excite l'imagination, d'autant que les hypothèses scientifiques sont nombreuses et controversées. Pour tenter de répondre aux interrogations que suscite cette civilisation, de nombreux archéologues fouillent le sol de Bretagne. Sur le site de Locmariaker, quand on découvre les fragments d'un vase, ils ont environ 6000 ans.
On va reconstituer ?
On va tenter de reconstituer, mais on a beaucoup de tessons, il en reste encore beaucoup dans la fouille, qui sont en cours de dégagement, et il est tout à fait possible de reconstituer le vase, ou tout au moins essayer d'obtenir un profil archéologique, c'est-à-dire pouvoir redessiner la céramique à partir d'une large portion du vase.
Extrait d'un reportage diffusé sur Antenne 2 en 1986. Yves Coppens, ils vous ont passionné, les menhirs et les dolmens de Carnac, et ils vous passionnent encore.
Oui, ils m'ont passionné parce que c'était ma fréquentation habituelle, quoi. Je ne pouvais pas aller me balader dans ces régions de Carnac et de la Trinité où je passais en général mes étés, sans en croiser. Donc finalement, quand vous croisez des monuments de ce genre en permanence, vous avez une sorte de dialogue avec eux, enfin vous posez des questions forcément. Et dans ces landes, il y a aussi un aspect très romantique, en un sens très poétique. Donc tout ça est lié finalement, c'est le paysage lui-même hein, qui intervient. Et donc aujourd'hui, en effet, j'ai souvent des retours comme ça tout à fait inattendus, c'est-à-dire que au bout de non pas de mon existence, hein, j'espère qu'il y aura un bout plus lointain, mais au bout de ce morceau d'existence, en tout cas, j'ai été convié à présider le comité scientifique international. Vous savez, tous les comités que je dirige sont scientifiques et internationaux. Hein. Donc, comité scientifique international des mégalithes ça s'appelle de Carnac et des rives du Morbihan.
C'est aussi avec ces dolmens que vous avez éprouvé un grand frisson. Vous étiez étudiant, hein, déjà un peu plus âgé. Et là encore, alors à chaque fois, c'est un mélange de chance et de chance que vous avez su provoquer. Mais vous vous trouvez dans une chambre mortuaire que personne n'avait vue avant vous. Comme vous êtes un des étudiants les plus maigres du lot, vous pouvez vous glisser à l'intérieur. Ouais. Racontez ça.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu de la chance. Et vous savez, c'est pas... Bien sûr qu'il faut la mériter d'une certaine manière, mais il y a aussi le coup de peau quand même. On tombe dessus ou on tombe pas, quoi. Et il se trouve que pendant mes années d'université à Rennes, avant d'avoir des années d'université à Paris, j'ai été volontaire pour toutes les fouilles possibles et imaginables. Et on s'est rendu en particulier dans un petit tumulus. On ne savait pas que c'était un tumulus d'ailleurs. C'est une petite butte de terre, quoi. Dans une île qui était un peu presqu'île et qui se trouve au bout du nord-ouest du Finistère, au bout du Finistère. La presqu'île s'appelle Carne. Et donc, ce monument, je fais vite, on l'a mesuré dans tous les sens, puis ensuite on s'est dit, on va faire un trou. Alors, on a fait un trou plutôt vers l'est, parce qu'en général, si c'était un dolmen et c'en était un, ces dolmens sont ouverts vers l'est, on avait des chances d'entrer par l'entrée. Mmh. Et en effet, on est tombé dans une sorte de petit couloir, mais on ne savait pas que c'était un couloir, et il était barré par 4 murs. Donc on a sondé les murs, 3 murs étaient pleins, et un autre mur, au contraire, montrait qu'il y avait autre chose de l'autre côté. Et c'est là, en effet, que sur les 4-5, on n'était pas plus de 4 étudiants, qui étaient là, c'est moi qui étais comme le petit pousset, quoi, tiré au sort. Et c'est moi qui suis entré dans une chambre sépulcrale, somptueuse, en coupole, parce que c'était pas des grosses pierres qui étaient verticales, mais c'était des petites pierres horizontales, placées les unes sur les autres et en encorbellement, c'est-à-dire que l'une dépassait celle du dessous et puis petit à petit, ça finissait par faire une voûte. Ouais. 7000 ans.
7000 ans. Le premier à mettre le pied dans cet endroit.
Ah oui, absolument, oui, le pied
depuis,
reste.
Depuis 7000 ans. Incroyable. Après tout ça, évidemment, on comprend qu'il n'était pas possible que vous fassiez autre chose que paléontologue, ou vous auriez pu être archéologue aussi. Alors, votre première grande expédition se déroule en Afrique, au Tchad. Vous arrivez là-bas en 1960. Cette terre qui vous faisait rêver depuis tout petit, vous la découvrez pour de vrai. Vos premières impressions, vous en souvenez, la première fois que vous êtes arrivé au Tchad?
Le premier contact avec l'Afrique, il est formidable. Il vous prend à la gorge, au poumon, il vous envahit de lumière, il vous envahit de chaleur, il vous envahit de couleurs, il vous envahit de senteurs. Ouais. Et je dois dire que, comme j'aime bien les gens, mais vraiment, j'aime bien les gens, c'est-à-dire que pour moi, ça a été un souffle d'un pays, d'une terre, d'une température, d'une atmosphère, mais en même temps de gens. En un sens, je serais triste d'aller sur Mars, j'y reviens, vous voyez.
Oui, décidément, parce c'est une obsession.
Il n'y a personne. Ah, oui. Il vaut mieux que j'aille voir, d'ailleurs, s'il n'y a personne.
Ah, d'accord.
Mais ça, c'est un peu embêtant.
Alors, ce n'était pas les Martiens que vous y étiez allé chercher au Tchad, mais c'était plutôt les éléphants qui vous intéressaient à cette époque.
Oui, c'est-à-dire que j'étais devenu spécialiste, en effet, de ce groupe de mammifères. Et c'est un groupe extrêmement intéressant, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas juste l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie, mais il y a beaucoup d'espèces. Et comme il y a beaucoup d'espèces, elles évoluent. Et comme beaucoup d'espèces qui évoluent, ça devient des marqueurs. Autrement dit, vous trouvez un chicot de dents, je ne plaisante pas, hein, un chicot de dents d'éléphant, je vous dis l'âge de la couche qui le contenait. Quoi.
Ouais. Alors c'est en Afrique que vous allez faire vos plus belles découvertes qui vont contribuer à repenser l'histoire des origines de l'homme. Vous allez nous raconter vos expéditions, le terrain et les plus belles découvertes. Yves Coppens, Le Temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Delgrès, Monsieur Président, sur France Inter.
Voici l'Omo, la rivière des Nyangatom. Elle coule du nord au sud. Elle prend naissance dans les montagnes d'Éthiopie. Elle boit les pluies d'Éthiopie. Et pour les Nyangatom, cette rivière, c'est la vie. C'est l'eau qu'ils boivent, c'est le poisson dont ils se nourrissent. C'est la rivière qui imprègne leur jardin et qui fait jaillir le mil. Et c'est aussi la rivière qui leur indique la voie contraire, la voie perpendiculaire à celle du soleil. Et d'ailleurs, les Nyangatom ont deux rivières. Ils ont l'Omo et ils ont la Voie lactée. Deux rivières, deux grandes longitudes que croise chaque jour la course du soleil. L'Omo et la Voie lactée, c'est le même nom. Angalol, rivière, pour eux, l'univers se rejoint.
Une voix que vous devez reconnaître, Yves Coppens, celle de Serge Tornet, ethnologue. En 1970, il vous accompagnait dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Cette vallée, c'est la deuxième grande étape de notre bivouac avec vous, Yves Coppens, à l'occasion de la parution de vos mémoires « Origine de l'homme, origine d'un homme » aux éditions Odile Jacob. Alors, après le Tchad, où nous sommes passés brièvement, vous y avez passé plus d'une dizaine d'années, vous commencez en parallèle des fouilles en Éthiopie. Pourquoi ce pays, pourquoi cette région? Comment, en fait, vous savez où il faut aller fouiller?
En fait, parce qu'il y a eu des gens qui m'y ont précédé, hein, et qui y ont trouvé des choses. Mais vous savez, c'est toujours l'occasion qui fait le larron. Quelquefois, je dis l'occasion qui fait le copasse. il se trouve que l'empereur d'Éthiopie, très peu de temps avant, avait fait une visite au Kenya. Et dans cette visite au Kenya, il avait vu un certain nombre d'hommes politiques, mais aussi un grand savant paléontologue qui s'appelait Louis Leakey, britannique. Et il avait montré à l'empereur des restes d'hommes anciens, d'hominidés anciens, donc des ancêtres de l'humanité. Et l'empereur, très, très vif, j'ai bien connu ce petit monsieur, lui avait dit « Mais pourquoi au Kenya et en Tanzanie et pas en Éthiopie ?» Et donc, Leakey a sauté là-dessus en disant ben, « on peut s'y rendre, bien sûr ». Et l'empereur a dit, qui restait très politique, il a dit « c'est entendu, mais faites en sorte que l'expédition soit internationale ».
Mais comment ça se passe, l'expédition sur le terrain? Quand vous arrivez, alors à cette époque, hein, vous n'avez pas encore de GPS, vous avez des cartes, vous êtes équipé comment? Comment on travaille concrètement dans le pays une fois qu'on a lancé l'idée de l'expédition?
Ben écoutez, il y a les cartes et puis il y a le pif, quoi. Et le pif, c'est le soleil sur les étoiles, etc. Je plaisante pas, hein, parce que les cartes, si vous voyez les cartes dont on disposait, surtout le nord du Kenya, en général, n'existait pas. Les cartes s'arrêtaient très au sud, parce que c'était région dite inexplorée. Ça ne l'était pas véritablement. Ouais. Mais c'était des régions que l'on n'abordait pas sans problème, sans risque. Et sans audace. Et en l'occurrence, les cartes que l'on avait, c'est des cartes au millionième. Millionième, c'est pas beaucoup. Et des feuilles au 200 millième. Alors, les feuilles au 200 millième, c'était des minutes photogrammétriques. C'est-à-dire, c'était des photos prises du ciel avec lesquelles on avait fait de vagues dessins des rives, des rivières et des lacs. Et puis, en même temps, des reliefs. Mmh. Et c'est tout. Mais ça n'a pas d'importance. On se dirige très bien partout sur la Terre. Et moi, je n'ai jamais été perdu. Enfin, je ne veux pas être prétentieux, mais je n'ai jamais été perdu. Jamais été perdu.
Ah oui.
Que ce soit dans le désert ou dans la savane, ça ne m'a jamais tracassé d'ailleurs, jamais inquiété. Mais...
Ouais. Alors, il faut aussi beaucoup de patience et de minutie sur le terrain, comme on s'en aperçoit en écoutant l'un de vos compagnons d'expédition, Jean-Jacques Jaeger, qui vous accompagnait toujours dans cette vallée de l'Omo en Éthiopie. Nous sommes en 1970 sur l'ORTF.
Semble être de ceux qui cherchent une aiguille dans une botte de foin, non?
Oui, à peu près. C'est-à-dire que vous voyez que je suis en train de laver du sédiment. Sédiment qui a été récolté à quelques kilomètres d'ici.
Il a quel âge ce sédiment, excusez-moi?
Quel âge? Environ 2 millions d'années.
D'accord.
Il est trempé, donc pendant un certain temps, dans ces cuvettes avec de l'eau, où les argiles se défloculent, vous voyez, ça se décompose entièrement. Mmh. Ensuite, il est tamisé. Et nous recueillons dans le tamis les grains et les granules, en l'occurrence du gravier, qui contient également quelques petits ossements de mammifères.
Vous en trouvez beaucoup?
Non, dans ce niveau-là, et en général pour le mot, les petits mammifères semblent être relativement rares.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement?
Exactement les dents de micro-mammifères.
Vous trouvez votre dent de rongeur, vous avez passé vos cribles combien de kilos de boue?
Je compte tamiser 50 sacs de 20 kilos, ce qui fait à peu près une tonne de sédiments.
Tous ces sacs de sédiments retournés pour trouver les dents, les éventuelles dents de petits rongeurs. Le journaliste de l'ORTF a l'air un peu sceptique, hein, sur l'entreprise. Pourquoi se donner tout ce mal, Yves Coppens?
Bah, tout simplement parce que les dents de rongeurs, au même titre que les restes plus importants que l'on peut, importants dans leur proportion, dimension, que l'on peut retrouver, sont des informations sur le lieu, sur l'endroit, sur le climat, sur l'environnement, sur l'époque, sur des quantités de choses. Par exemple, le fait qu'on ait trouvé des rongeurs dans les couches plus anciennes de l'Homo, et que ces rongeurs soient de certaines espèces, ça voulait dire que le territoire était humide, et puis dans les parties plus récentes, que le territoire était devenu sec. Or, le passage de l'humide au sec, c'est pas rien du tout, c'est l'origine de l'homme, c'est la raison pour laquelle l'homme est apparu. Donc, vous voyez que les rongeurs ont aussi leur importance.
Alors là, on est en train de mettre le doigt sur ce qui vous a passionné dans cette vallée de l'Homo, vous êtes rendu compte que le climat avait beaucoup changé au cours des derniers millions d'années dans cette région, et que aussi bien les animaux et aussi l'apparition de l'homme étaient liés à ces changements climatiques.
Oui, vous savez, la science est simple. Il suffit de l'analyser proprement et elle se révèle à vous. Moi, c'est toujours ce qui m'a paru magique dans la science. C'est la manière dont les choses apparaissaient, les choses se reliaient les unes aux autres et ça donnait finalement un ensemble cohérent. Or là, vous êtes imaginé devant une falaise, c'est pas tout à fait ça, mais presque, de près de 1000 mètres de hauteur. Dans cette falaise, il y a des fossiles partout. Ces fossiles, vous vous rendez compte, chose simple, que ceux d'en bas ne sont pas ceux d'en haut. Donc au cours des 1000 mètres, ils ont changé. Et comme la base est autour de 3 millions d'années et que le sommet est autour d'un million d'années, ça veut dire qu'entre 3 et 1 million d'années dans ce coin-là, le climat a changé. Et ce climat, bien sûr, les rongeurs dont on vient de parler, par exemple, sont des informations très précieuses pour lire ce climat. Or, de manière très aussi simple, comme on trouve parmi les restes d'animaux des restes d'hommes et de préhommes et de préhumains, et que l'on voit que les préhumains précèdent les humains, ça va de soi, mais qui sont dans les parties humides plutôt, alors que les humains sont plutôt dans les parties sèches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe du préhumain à l'humain par une nécessité, c'est l'adaptation à un climat beaucoup plus sec. Et tout d'un coup, ça devient une grande découverte, quoi. Ça devient la raison pour laquelle l'homme est apparu, quand même, c'est pas rien. La raison pour laquelle l'humanité est apparue. J'insiste, parce que c'est passé assez inaperçu. Au début, tout le monde en plaisantait. On m'a dit, non, tu es déterministe. Non, il faut faire des statistiques pour voir si c'est vrai. Et puis, les copains américains ont bien compris. Ils m'ont dit, on va mettre des thèses là-dessus tout de suite. Et puis, depuis, c'est devenu une vérité tout à fait classique, banale, que tout le monde a admis depuis longtemps. Oui. Ouais.
Alors, en Éthiopie, c'est aussi, alors pas dans la vallée de l'Homo, hein, dans une autre région d'Éthiopie, que vous avez fait la découverte qui vous est associée, pour laquelle on vous connaît le plus. Peut-être que vous en avez d'ailleurs assez, qu'on vous parle de ce petit personnage, comme vous dites, c'est Lucie. Alors, dans quelles conditions vous avez, avec vos équipes, découvert Lucie?
Eh bien, l'histoire de l'Afar, c'était à 1000 km quand même. C'est aussi en Éthiopie, mais c'était à 1000 km de l'Homo dont on vient de parler. C'est l'histoire d'un géologue. Un géologue qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est un ami, un collègue, et qui a trouvé un beau jour un morceau de quoi? D'éléphant, un chicot des dents d'éléphant.
On y revient. Voilà.
Et le chicot des dents d'éléphant m'a permis de lui dire que ça signifiait un terrain entre 2 et 3 millions d'années. Et donc, je l'ai poussé, incité, encouragé à poursuivre son regard. Il m'a apporté d'autres fossiles. Finalement, on a mis sur pied une expédition en 72. Et dès 73, on avait des restes de préhumains, c'est-à-dire des restes de ce que nous avons appelé Australopithecus afarensis.
C'est pas encore Lucie, hein. Là, ce sont d'autres animaux, d'autres Australopithèques.
Oui, c'est clair.
Claire, le genou de Claire.
Voilà, c'était un genou. C'était, enfin, comme vous l'imaginez, un petit bout de fémur, un petit bout de tibia. Comme le fémur s'articule sur le tibia, ça finit par faire un genou. Et le genou me paraissait féminin et je l'avais appelé joliment le genou de Claire. Ouais. Et puis la pauvre Claire a eu une vie un peu courte parce que Lucie l'a remplacée très très vite. Parce que l'année suivante, ça c'était 73 et 74, on lui trouvait juste un genou qu'on a trouvé aussi. On a trouvé beaucoup d'autres restes, puisque le total de restes déterminables, c'était 52 ossements d'un même individu. On n'avait jamais trouvé ça. On n'avait jamais trouvé 52 ossements d'un même individu de préhumain.
Oui. Sur le coup, au moment où, os après os, on retrouve les ossements de Lucie, vous ne réalisez pas tout de suite l'ampleur de la découverte. C'est après coup, en fait.
Ben, c'est-à-dire que comme on avait trouvé, comme je viens de vous le dire, des ossements comparables en 73, c'était des ossements de plus. Ouais. Et puis, le fait qu'on en trouve d'autres, c'était important, ça montrait que le gisement était riche. Et le fait qu'on trouve des ossements qui ne se doublaient pas, ça a voulu dire à la longue que c'était peut-être les ossements d'un même individu. Ouais. Et tout d'un coup, la découverte d'un même individu, en tout cas de tant d'ossements d'un même individu, ça voulait dire qu'on en connaissait la taille, ça veut dire qu'on pouvait estimer le poids, ça veut dire qu'on connaissait les articulations, donc les gestes, les comportements, donc avec les comportements, l'environnement, enfin tout d'un coup, ça élargissait la découverte à beaucoup de choses.
Ouais. Alors on comprend que c'est beaucoup excité les scientifiques, mais pas seulement les scientifiques. Le public, les médias se sont enthousiasmés pour cet Australopithèque.
Le plus ancien spécimen de cette préhumanité, c'est ce squelette, la plus vieille dame du monde.
Je crois qu'elle a un nom charmant, cette femme.
Alors oui, il faut vous dire qu'elle s'appelle Lucie.
Yves Coppaz, vous êtes anthropologue. Vous êtes co-découvreur, je voudrais le rappeler
en avec plaisir. En 4 mois, la petite cousine Lucie a eu 100 000 admirateurs.
Et il est aussi le co-inventeur du plus vieux squelette que l'on ait jamais découvert parmi nos ancêtres, Lucie.
Elle a 3 millions d'années et on peut la rencontrer au Musée de l'Homme à Paris.
Aujourd'hui, Lucie, l'Australopithèque, est plus connue presque que la chanson des Beatles à laquelle elle doit son nom, Yves Coppens. Vous vous attendiez à un tel engouement du grand public ?
Non, pas du tout, d'autant plus qu'on nous a dit sur le terrain, c'était évidemment un coup de pub, pas du tout. Imaginez 30 gens, on avait quoi, entre 25 et 45 ans, quoi. Ouais. Moi j'en avais 40, juste. Donc on travaillait, on trouvait des choses, on était très enthousiastes et on était loin de penser à lancer un coup de pub du terrain, bien sûr. Et on a été très surpris lorsque la première agence qui s'en est emparée à Addis Abeba, en notre absence, on était sur le terrain, a dit les jeunes qui travaillent sur cette expédition viennent de faire une grande découverte, la découverte d'un squelette qu'ils ont appelé Lucie, car Lucie vient du latin luxe, luxe veut dire lumière, et ils sont éclairés sur leurs origines, sur nos origines. Jamais on a pensé à pareille chose sur le terrain, jamais, jamais. C'était beaucoup plus anecdotique que ça et plus joli finalement que ça.
On poursuit notre voyage dans le passé de l'humanité, dans les souvenirs d'Yves Coppens, invité du temps d'un bivouac sur France Inter. Smooth Operator, c'était Shadé sur France Inter.
Aujourd'hui, un obstacle s'est présenté sur leur chemin. Un obstacle que Lucie n'a jamais franchi. Les Australopithèques ne savent pas nager, mais les anamincis ont appris à traverser les rivières en suivant les autres animaux. Lucie sent ses forces à l'abandonner et elle espère qu'ils renonceront. Elle ne veut plus être seule. Son enfant ne survivra pas. Si elle a les jambes trop courtes et trop lourdes, elle ne peut pas résister au courant. Le corps de Lucie s'est déposé dans le lit d'un fleuve d'Éthiopie et y est resté jusqu'à ce qu'on la retrouve.
Extrait de l'Odyssée de l'espèce, film de Jacques Malaterre, un documentaire qui va battre tous les records, diffusé en prime time sur France 3. 9 millions de téléspectateurs ont assisté à la noyade de Lucie. Ce documentaire, c'était l'une de vos idées, Yves Coppens?
Oui, depuis longtemps, oui. Vous savez, c'est tout simple, c'était pas de la jalousie, mais j'avais un copain anglais qui avait fait un film, et puis ensuite un copain américain qui avait fait un film. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce que j'ai aussi mon idée, qui n'était pas celle de Richard Dickey, pas celle de Donald Johnson, sur l'évolution de l'homme. Donc, pourquoi pas aussi la présenter? Donc, j'avais écrit un petit synopsis que j'avais présenté à quelques personnes, sans beaucoup de succès. Puis, un beau jour, ça a explosé, parce que c'est tombé entre les mains de quelqu'un à qui ça a plu. Et puis, de main en main, c'est arrivé à une production, et puis finalement à aussi un réalisateur, Jacques ouais. Malaterre, qui est devenu un très bon ami. Et on s'est amusé beaucoup à faire ce grand film. Et évidemment, c'est de la fiction hein, en grande partie, mais c'est quand même, ça s'appuie sur tout ce que l'on sait, tout ce que la science nous a appris, mais il reste beaucoup de choses à apprendre. Et il y a des gens qui ont été si pris qu'ils m'ont dit, au moment où justement la petite Lucie se noie, qui m'ont dit « on a pleuré ». Donc ça veut dire que ça marchait bien sur le plan, au moins, de la dramaturgie, quoi, si je puis dire.
On sait ce qui lui est arrivé à cette petite Australopithèque, Lucie. On sait qu'elle s'est noyée, ça on le sait. On a compris ce qui s'était passé.
Bah, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans un milieu lacustre, dans un sable lacustre. Pas fluviatile d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit dans le film. Et c'est pour ça qu'elle est un peu moins incomplète que les autres, parce que le sable lacustre, enfin, les bords du lac sont moins turbulents que les bords d'une rivière, ça va de soi. Mmh. Et par ailleurs, on a cru y déceler, avec un collègue et ami qui s'appelle Philippe Charlier, on a cru y déceler des traces de dents de crocodile. Donc elle a été plus volontiers mangée ou vivante ou plus ah oui. volontiers
Donc
morte.
Le scénario de Jacques chute. Malaterre aurait pu être encore plus terrible.
Ah oui, on peut arranger ça. Oui. Et puis certains Américains, il n'y a pas longtemps, ont dit qu'elle était tombée d'un arbre, mais ça ne marche pas non plus.
Ah, c'est une vraie enquête policière, hein, ce qui se passe avec cette Lucie. Alors, nous avons fait beaucoup de place à Lucie, cette Australopithèque, mais vous avez découvert ou participé à la découverte de 6 hominidés nouveaux. Et c'est un record hein, dans le domaine chez les paléontologues. Alors, prenons le temps d'évoquer quelques-uns de ceux que l'on connaît moins. Vous parliez tout à l'heure du genou de Claire. Quels sont les personnages de la grande famille humaine ou des ancêtres que vous avez pu découvrir?
Le tout premier, c'est le Tchadanthrope. Je l'ai trouvé au Tchad, et comme son nom l'indique, quoi, c'est un nom idiot, c'est moi qui lui ai donné ce nom, ça veut dire l'homme du Tchad, c'est tout simple. Et en fait, c'est un fragment de crâne, c'est joli, c'est comme une sculpture. On a l'impression qu'un crâne, c'est un gros truc, ouais. Tout blanc, avec des gros yeux, et puis on voit la mort derrière, mais celui-là, c'est une vraie sculpture qui est faite à la fois d'os très pétrifié, très brun, très marron, brun foncé même, et avec du grès, avec du sable qui s'est grésifié, qui lui aussi est pétrifié, et qui est devenu du grès, et un grès gris, un gris-grès. Donc c'est une très belle pièce, et c'est probablement un Homo erectus. Moi je l'avais fait un peu plus vieux qu'il ne méritait, ce fossile, mais c'est sans doute un Homo erectus de quelques dizaines, centaines de milliers d'années. On ne connaît pas son âge pour le moment.
Autre membre de la famille auquel vous voudriez que l'on rende un peu hommage?
Éthiopicus, quand même. Éthiopicus, c'est un fossile que j'ai trouvé en Éthiopie, bien sûr, comme son nom l'indique aussi. Ouais. Et dans le sud de l'Éthiopie, au bord de la rivière Omo dont on a parlé. Et celui-là, ça a été le tout premier, qui répondait à la demande de l'empereur. L'empereur avait dit « Pourquoi pas en Éthiopie ?» Et on a eu la chance, dans mon équipe, dans le sud de l'Éthiopie, de découvrir celui-là, le premier. Et il avait 2 600 000 ans. Et du coup, l'empereur m'a donné sa médaille d'or, dont je suis très fier. Et je suis très fier parce qu'on dit toujours « Lucie, en gros, vous n'étiez rien avant Lucie ». Non, la médaille d'or, elle m'a été donnée en 73, donc avant Lucie, pour cette découverte. Et à partir de ce moment-là, ça a été extraordinaire, à partir de cette découverte, il n'y a jamais eu un discours de l'empereur sans qu'il exprime cette fierté d'avoir un pays qui faisait partie du berceau de l'humanité.
Yves Coppens, vous n'êtes pas seulement parti sur les traces des premiers hommes en Afrique. En 1999, vous êtes parti avec l'explorateur Bernard Buig chasser le mammouth congelé en Sibérie.
Alors ça y est, on est arrivé.
Oui, on est arrivé dans cet endroit qui s'appelle Bolchoï-Balartia. C'est près d'une petite rivière. On est à 200 km au-dessus de la dernière forêt primaire. On est ici en pleine toundra, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arbres qui poussent. Il n'y a que du lichen, des mousses, des herbes rares. Et ça fait à peu près une heure qu'on survole ce paysage. C'est là que se trouve le mammouth qu'on a trouvé, enfin que les Jarkoff ont trouvé. Et qu'on va finir par excaver là dans les jours qui viennent.
Changement de décor et de climat pour une nouvelle aventure. Alors on retrouve des mammouths dans un excellent état de conservation dans le sol gelé de Sibérie. Et vous vous êtes retrouvé dans cette aventure d'aller déterrer les mammouths, Yves Coppens.
Oui, c'est formidable.
Ouais.
Enfin, dès que j'en ai eu l'occasion, enfin, vous avez bien compris, hein, quand l'occasion m'est offerte, je ne la laisse pas passer. Et en effet, pour moi, c'était extraordinaire parce que je venais de passer des dizaines d'années à ramasser des ossements et des dents. Et tout d'un coup, j'avais affaire à des cadavres.
Ouais.
Alors évidemment, les cadavres n'avaient pas des millions d'années. Ils avaient quand même plusieurs dizaines de milliers d'années. Certains plus de 50 000 ans, probablement. Et ils étaient là avec leur corps, avec leur peau, leurs poils, leurs organes, leurs muscles. C'était très impressionnant. Et j'y suis allé donc sous la conduite de Buig. Et j'ai beaucoup aimé ces grandes étendues de la toundra qui s'étendent jusqu'à l'océan glacial arctique, quoi. Ouais. C'est immense, c'est merveilleux. Enfin, je suis un homme plutôt des grands espaces, tels le Sahara, tels la savane, ouais. Tels la steppe, tels la toundra, plutôt que des forêts d'une part, ou plutôt que des montagnes d'autre part.
Ouais, mais les écarts de température ne vous font pas peur pour autant, hein, parce que là, c'était plutôt dans les températures extrêmement négatives.
Oui, alors peur, non, pas du tout. Je n'ai jamais eu peur. Ceci étant dit, je préférais le chaud au frais, quand même.
Ouais.
Probablement parce que j'ai commencé par là, sans doute. Mais j'ai un peu plus souffert dans les climats froids que dans les climats chauds. Lorsque vous avez votre petit déjeuner à la porte de la tente et qu'il fait moins 20, vous avez de la peine à avoir un café chaud, mais ouais. on y arrive. On ouais. y a,
alors, il y a le café chaud difficile à avoir, et puis le mammouth aussi congelé, c'est dur à avoir. Il a fallu attaquer le permafrost, ce sol gelé de Sibérie, à coups de marteau-piqueur, ouais. pour dégager une sorte de gigantesque cube de glace dans lequel se trouvait ce mammouth.
Oui, ça m'amuse beaucoup de raconter ça, parce que, vous savez, les gens, à juste raison, imaginent les fouilles, ce qui n'est pas fou, hein, comme étant le dégagement de sols anciens avec de très petits outils, oui. Genre brosse à dents. Et là, pour dégager le mammouth, c'était d'abord du marteau-piqueur. Et pour ensuite dégager ses os un à un, c'était le sèche-cheveux.
Oui, ça, l'outil, c'est le sèche-cheveux. Pour décongeler le mammouth, c'est le plus efficace. Qu'est-ce qu'on a pu faire raconter à ce mammouth?
Bah écoutez, beaucoup de choses. D'abord, le milieu dans lequel il se trouvait, parce que dans le permafrost, c'est non pas de la glace, mais c'est du sol gelés. Autrement dit, le sol est aussi ancien que le mammouth, ça va de soi. Et le sol lui-même contient des quantités de choses. Il contient des restes de plantes, des graines, des fleurs. Il contient des restes d'animaux, de petits insectes, d'arthropodes, des histoires de ce genre très variées. Aussi des empreintes de feuilles et de fleurs parfois. Et d'autre part, le mammouth est si bien conservé que parfois on en trouve l'estomac. Et on a trouvé une partie de l'estomac, non pas de celui-là, qu'on appelle Jarkov, ça a été dit dans votre morceau recueilli, là. Mais on a trouvé un autre reste de mammouth dans lequel, en effet, l'estomac était conservé.
On sait ce qu'il avait mangé.
Alors l'estomac, on connaît son dernier repas, en tout cas.
Ouais.
Et il avait déjà digéré une partie de l'herbe, ça faisait une sorte de magma, c'était pas très brillant. Mais par contre, il restait encore beaucoup de feuilles non encore digérées, qui ont permis de replanter le paysage de l'époque. Ouais. Et le paysage de l'époque ressemblait plus à une steppe, ce qu'on appelle la steppe à mammouth d'ailleurs, avec de petits arbres, probablement les longs des pièces d'eau et le long des petites rivières, plutôt que de la toundra, c'est incontestable.
C'est ce qui s'appelle faire revivre le passé au sens propre.
Oui, mais au sens propre, comme vous le dites, puisque une collègue russe a même réussi à faire repousser ces plantes fossilisées de 30 000 années.
Suite et fin de notre bivouac en compagnie d'Yves Coppens dans un instant sur France Inter. Generation Lost dans le temps d'un bivouac par L.A. Salami.
Il a les cheveux gris.
Et une barbe blanche.
Une barbe grise.
Ouais.
Les cheveux blancs gris.
Non, gris. Il a 82 ans.
Il a 70 ans.
Il a 82.
En fait, Yves Coppens, il a trouvé Lucie.
Australopithèque.
Dans l'eau.
Il a retrouvé sur la plage.
Un mètre 20.
Elle s'est noyée, elle s'est fait.
Ça ne savait pas nager.
Il est très intelligent.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Il a eu plein de médailles.
C'est un paléontologue.
C'est un paléontologue.
Paléontologue. Ça fouille dans la terre pour trouver des os.
Il a trouvé Lucie un mammouth glacé.
Un mammouth glacé.
Les enfants d'une école primaire interrogés pour le documentaire Empreintes que vous a consacré France 5, Yves Coppens. Vous publiez vos mémoires aux éditions Odile et Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme. Vous qui avez toute votre vie eu à cœur de partager, de transmettre, ça doit vous toucher, ces enfants qui s'enthousiasment sur vos découvertes, sur votre personnalité.
Ah, c'est formidable. Évidemment, je fais des conférences beaucoup. Je fais des conférences pour tous les publics. J'aime beaucoup les gens, quels qu'ils soient. Donc, je vais d'une association à une université et d'une académie à une école primaire. Mais la réaction des petits est merveilleuse parce que d'abord, ils sont émerveillés au sens propre, quoi. Ils ont les yeux tout ronds quand on leur raconte des histoires. En plus, je raconte des histoires en apportant toujours des objets réels. Donc, ils peuvent patouiller les objets, se les passer entre eux, etc. Et d'autre part, leurs questions sont toujours très pertinentes, inattendues, drôles. Un jour, j'étais dans une école au premier étage. Non, au deuxième étage, je crois. Deuxième étage. Et donc, aux enfants, je leur raconte l'histoire d'un dinosaure. Et je leur dis, ce dinosaure, vous ne pouvez pas le rater. Il a un nom superbe et facile à retenir. Il s'appelle Supersaurus. Et je leur dis, s'il est là dans votre cours, s'il est sous votre vitre, là, sous votre classe, dans votre cours, il est tellement grand que son cou passe devant la fenêtre et que sa tête est au-dessus. Bien, toute la classe s'est penchée pour voir la tête. Et dans le cerveau de ces petits, sûrement qu'ils l'ont vu.
Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant que vous étiez, que l'on évoquait en début d'émission, ce passionné d'histoire, d'exotisme, qu'est-ce qu'il penserait de ce parcours, de votre parcours?
Ça, je n'y ai pas pensé, voyez. Ben, je suppose que il en serait envieux. Alors, je ne sais pas s'il en ferait son modèle, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas impossible, au moins en partie, quoi. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que un certain nombre de gens, de jeunes gens, de moins jeunes gens, ont, d'après ce qu'ils disent, suivi certaines de mes traces, je ne veux pas dire que je sois un modèle en tout, hein, mais certaines de mes traces et que certains livres les ont inspirés au point qu'aujourd'hui ils sont devenus, pour certains d'entre eux, paléontologues professionnels. Mmh. Professionnels. Ils en ont fait véritablement leur métier.
Quelle est la découverte, l'avancée scientifique que l'on vous doit et dont vous êtes le plus fier, la chose que vous voudriez que l'histoire des sciences retienne?
Ben, sûrement celle qui est la moins éclatante, l'origine de l'homme. Le fait que l'homme, au même titre que les animaux qui l'entourent, doit son existence à la transformation, à l'adaptation, à la nécessité pour un préhumain de s'adapter à un changement climatique, en l'occurrence de s'adapter à un assèchement du climat. Et ça, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour moi une grande percée, parce que c'est mettre d'abord l'homme au niveau de tous les animaux qui l'entourent, et puis montrer que notre origine est tout à fait banale, en quelque sorte, tout à fait naturelle et banale, et qu'ensuite c'est un développement pirate, un usage pirate de notre cerveau, un usage pirate de notre respiration, qui a fait qu'on a eu le langage articulé au lieu de l'avoir modulé, et puis qu'on a eu un niveau de conscience bien au-dessus des niveaux des animaux, mais c'est vraiment un usage secondaire, d'une sélection naturelle.
Notre sort et notre évolution en lien avec l'environnement et en lien avec le climat. Il y a de quoi faire réfléchir. Vous qui avez cette vision assez claire, assez générale de l'évolution de l'humanité, comment vous entrevoyez la suite?
Alors, général, oui, clair, moins que vous l'imaginez, malheureusement. moi, je l'envisage très, très belle, la suite. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup, ce soit catastrophique. Et je le dis de cette manière parce que quand je me projette dans le passé, au moment des Homo erectus, il y a 800 000 ans, j'imagine la tête des gens en général lorsque certains d'entre eux ont réussi à inventer la manière de fabriquer le feu. Donc là, qu'est-ce qu'a dit le reste de l'humanité? Ils ont dû dire, c'est épouvantable, ces jeunes gens sont fous, ils vont mettre le feu à la planète, et la planète est fichue. Et puis, beaucoup plus loin dans le temps, autour de 3 millions d'années, lorsque certains de ces gens, de ces tout premiers humains, se sont mis à taper sur des cailloux et se sont mis à parler, tout le reste de l'humanité a dû se dire, qu'est-ce que c'est que ces petits voyous qui font ces bruits insupportables? Qu'est-ce que c'est que ces bruits de papotage dans la savane? Qu'est-ce que c'est que ces bruits secs et répétés de cailloux que l'on casse? Quelle idée de casser des cailloux au lieu de s'en servir directement? C'est épouvantable. Ouais. L'avenir de l'humanité est tout à fait compromis. Donc
vous êtes confiant, finalement.
Ah oui, tout à fait.
Il n'y a pas de raison de s'en faire.
Non, tout à fait, oui, tout à fait. Je suis vigilant autant que quiconque, et je ne connais pas plus l'avenir que certains. Certains connaissent certainement mieux l'avenir que je ne l'imagine. Mais je suis confiant, oui, bien sûr. Ouais.
Vous continuez à participer à des expéditions, à des chantiers de fouilles?
Moi, je continue à bouger beaucoup, oui, à bouger beaucoup et aller sur les chantiers de fouilles, plutôt aller sur les chantiers que désormais diriger des chantiers.
Merci. La passion est toujours là.
Oui, j'ai toujours une bougeotte épouvantable, oui.
Ouais, épouvantable. Vous êtes toujours dur à suivre. Je rappelle le titre de vos mémoires parus chez Odile Jacob, Yves Coppens, Origine de l'homme, origine d'un homme. Merci Yves Coppens d'être passé par notre bivouac.
Merci.
Après le flash, j'aurai le plaisir de recevoir Antoine, le chanteur des Élucubrations. Parti en 1974 pour un tour du monde à la voile, en solitaire de 5 ans, il n'est jamais vraiment rentré. Mais la vie de cet amoureux des îles polynésiennes ressemble-t-elle vraiment à des vacances qui ne se seraient jamais arrêtées? Et que retient-il de ces 40 années passées à voguer d'île en île? C'est ce qu'il va nous raconter, Antoine Acoste, dans Le Temps d'un Bivouac, dans un instant.